بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous réunit ce soir par le biais de cet outil informatique pour essayer d'étudier quelques versets du Coran. Nous allons étudier un verset, ou plutôt certains versets du troisième juz, tel que Rasul Fadlana Ba'dahum ala Ba'd, et le choix s'est porté sur Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, je pense que c'est un verset qui est mémorisé par tout le monde, ou presque tout le monde, et il est extrêmement important que le croyant connaisse ce verset par cœur. Ça fait partie des versets de protection. Et au-delà du fait que ce soit un verset de protection, le Ayatul Kursi est, selon les hadiths et l'avis de la majorité des savants, donc qui extrait donc cet avis des hadiths, c'est le verset le plus important du Coran. Ibn Kathir rahimahullah cite dans son tafsir: هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم وقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل آية في كتاب الله. Ibn Kathir présente ces versets comme étant le Ayatul Kursi. Il rappelle que selon les hadiths, et hadith qu'il va citer, Ibn Kathir a cité, subhanallah, je ne peux pas vous dire 4 ou 5 pages de hadith concernant les vertus d'Ayatul Kursi. Il dit donc, selon ces hadiths, on a une preuve très claire que ce sont les meilleurs versets du Coran. Et parmi tous les hadiths que Ibn Kathir rahimahullah a cités, j'en ai sélectionné 3. Hadith de Abu al-Munzir. Et le hadith est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Cette personne a demandé: Ya Rasulallah, ayyu ayatin fil Qur'an a'zam? Au prophète d'Allah, quel est le verset le plus important? Quel est le verset le plus fort, le plus puissant dans le Qur'an? Faqala rajulun Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Un homme a répondu que c'est le verset que je viens de vous lire, c'est-à-dire Ayatul Kursi. Et là, il y a quelque chose qui est magnifique. J'aurais pu m'arrêter à là pour juste faire le rappel que c'est le meilleur verset, mais il y a un détail qui nous subhanallah, qui m'interpelle et qui nous fait comprendre que le prophète alayhi salat wa salam était un homme exceptionnel, et même dans son gestuel et dans ses attributs physiques, il y avait quelque chose d'incroyable. Et cette personne dit, après que le prophète alayhi salam et obtenu la réponse, فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. Il a dit que le prophète d'Allah a posé sa main entre mes omoplates, au niveau de mon dos, le haut du dos. Le prophète alayhi salatu wassalam a posé sa main sur le haut de mon dos, et pour être un peu plus précis, c'est entre les omoplates. Il dit, فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا. J'ai ressenti une fraîcheur au niveau de ma poitrine. Hadib, ça c'était la lumière qui se dégageait de An-Nabi alayhi salat wa salam. Et il dit, فَوَضَعَ يَدَهُ, dit, ensuite, il a pris sa main, béni, il a posé sur ma poitrine et je ressentis la même fraîcheur au niveau de mon dos. Et le prophète alayhi salat wa salam était satisfait donc de ce sahaba. Je trouve ça magnifique. On voit que le prophète, au-delà de ses paroles, au-delà de son akhlaq, de son comportement, le prophète alayhi salat wa salam était le miracle d'Allah dans tout ce qu'il faisait. Et même, je le dis, dans le gestuel, dans ce qui se fait dégager de lui physiquement, et les sahaba l'ont vu et en ont profité, c'était rahmatan lil alamin, une bénédiction pour les mondes. Il y avait un autre récit, je sors légèrement du sujet, mais je n'ai pas eu l'occasion de retrouver ce hadith. Inch'Allah, on essaiera de faire quelques recherches un jour. Il y avait un sahaba qui avait, une personne qui a été voir le prophète sallam pour poser certaines questions sur la foi. Et apparemment, c'était des questions un peu ambiguës, et il avait comme des doutes, ou il remettait en question certaines choses. Et il a relaté que le prophète sallam a frappé sur sa poitrine, a donné une tape sur sa poitrine. Et il dit que j'ai eu un déclic, et là, tous ces doutes tous ses doutes se sont totalement dissipés. Ça fait partie de la baraka qui se dégageait du prophète alayhi salat wa salam physiquement. Au-delà, je dis, de ses paroles et de son noble comportement, c'était un être béni dans toute sa personne. Voilà, donc ça c'était le premier hadith. Deuxième hadith, on a hadith de Abu Dharr. Al-Ghifari, radiallahu anhu, il avait posé beaucoup de questions au prophète, alayhi salat wa salam, hadith rapporté par An-Nasa'i, et à la fin, faqultu ya Rasulallah, ayyuma unzila alayka a'azam, ya Rasulallah, parmi tout ce qu'Allah t'a accordé dans la révélation, qu'est-ce qui est le plus important? Quel est le verset le plus fort, le plus important? Faqala alayhi salat wa salam, ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ce que vous avez compris du hadith, le prophète a cité Ayatul Kursi. Et on va terminer, les vertus, il y en a énormément, mais comme nous on veut aller plutôt dans le tafsir, donc deux fadila ou trois, je pense que c'est suffisant. Le troisième, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que on a dit en introduction, ben j'aurais dû le dire après, mais on a dit en introduction que c'est par excellence le verset de protection. On aurait dû plutôt amorcer en rappelant que c'est le meilleur verset, ce sont les meilleurs versets du Coran, mais il y a également le fait qu'Ayatul Kursi est un verset de protection. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte. Le hadith est un peu long. Le hadith a été cité dans Fathul Bari. Et Fathul Bari, c'est le commentaire de... Allez, petite question en ligne. Fathul Bari. Fathul Bari, c'est le commentaire de quel livre? Allah ybarik fikum. Il n'y a pas un ouvrage plus profitable pour la Ummah, selon les savants, que Fathul Bari. C'est le commentaire de Sahih al-Bukhari, qui a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. C'est un ouvrage exceptionnel. C'est un puits de connaissances et une lumière qu'Allah a accordée à Ibn Hajar al-Asqalani. Allah lui a donné la compréhension des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, je reprends le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu. قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. Hadith est long. Il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a donné la responsabilité de garder, de protéger, de garder, les récoltes qui sont destinées à être redistribuées aux pauvres pendant le mois de Ramadan. La zakat qui avait été prélevée, qui devait être redistribuée, était donc stockée. Et Abu Huraira devait surveiller cet endroit. Permettez-moi une petite parenthèse. On a le prophète d'Allah. On a quelle ville? Medina Munawwara. Sachant qu'Ayatul Kursi, la Surah Baqara est Madaniya. On a donc le prophète d'Allah. On a Al-Madina Al-Munawwara. On a Ramadan, le mois béni de Ramadan. Et on a quelle action? La zakat. Pilier d'Islam. Il n'y a que de la lumière là-dedans. Il n'y a que des trucs, il n'y a que des actions, il n'y a que des... tout ce qu'on a cité, c'est de la lumière et ce sont des choses bénéfiques. Le Prophète sallam demande à Abu Huraira de surveiller. On peut se dire que pourquoi le Prophète sallam demande à un sahaba de surveiller ce qui a été collecté. On est dans la ville sainte, dans le mois béni, à Madina Munawwara. Allah Rabbul Izzah n'est-il pas le protecteur? Et il s'agit de l'argent béni de la zakat. C'est as-sunnah. Al-ihtiyad, le fait de prendre ses précautions, et al-ityan bil asbab, le fait d'agir. Et c'est ça la sunnah d'Allah. Allah t'accorde la protection. Allah Rabbul Izzah te promet la protection, mais Allah te demande de faire les efforts nécessaires. Les efforts nécessaires, tu le fais en plaçant ta confiance en lui, et il te garantit la protection. C'est comme ce sahaba qui vient prier, qui laisse son chameau et qui ne l'attache pas. Le prophète m'a dit Aqilha, thumma tawakkal ala Allah. Ce n'est pas tout de dire que j'ai confiance en Allah et je laisse ma monture. Ou alors par analogie, une personne vient prier à la mosquée, elle vient de sa belle voiture, et elle laisse sa voiture garée devant la mosquée, les clés sur le compteur, le moteur allumé. Et il se dit, je vais prier, Lillahi azza wa jalla, je vais me prosterner devant mon Seigneur, et Allah est le hafiz, le protecteur. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ben bien sûr que tu ne suis pas la sunna. Si quelqu'un vole ta voiture, فَلَا تَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَكَ. Tu es entièrement responsable. Car le Prophète m'avait enseigné au sahaba, attache ta monture ثُمَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ensuite, place ta confiance en Allah. Je me souviens, c'est une énième parenthèse, à l'époque où, bi'idhnillah, on était à Al-Madin, Al-Munawwara, en tant qu'étudiant, il y avait une campagne publicitaire, on va dire, de, on appelle ça Wizaratul Naql, le ministère des Transports, à propos des accidents. Il y avait beaucoup d'accidents de voiture à cette époque. Et montrer justement des voitures accidentées, totalement écrasées, réformées. Et il citait le hadith. En mettant l'emphase sur le fait d'attacher sa ceinture, chose qui n'était pas du tout acquise hein, à cette époque là-bas. Et donc, il disait que mets ta ceinture et place ta confiance en Allah. Ce n'est pas tout d'entrer dans ta voiture et de dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, al-ali al-azim, et de dire Subhana alladhi sakharana hadha. Il arrête les dhalik, les ad'iya qu'on doit lire lorsqu'on prend un moyen de transport. Certes, fais les doigts, place ta confiance en Allah, mais mets ta ceinture de sécurité. Et c'est là le juste équilibre entre ce dunya et les promesses qui viennent de l'au-delà. C'est le juste équilibre parce que nous vivons dans un monde qui fonctionne avec des lois physiques et qui ont été créées par Allah, ses propres lois, et qui sont valables que pour ce monde. Le jour de Qiyama, aucune de ces lois, que ce soit spatiaux, temporelles, ou même les lois physiques d'apesanteur, de quantité, de niveau, ainsi de suite, tout ça, ou des cellules qui meurent et qui se renouvellent ou qui ne se renouvellent pas, tout ça n'existera plus le jour de Qiyama parce que c'est l'organisation d'Allah. Il y a une organisation de ce dunya et Allah nous demande de respecter cette organisation tout en plaçant notre confiance. Le juste milieu, c'est tu fais ce qu'il y a à faire, prends les précautions et place ta confiance. Doun ifrat wa tafrit, sans exagération et sans négligence, d'accord? L'exagération, ce serait le cas qu'on a cité tout à l'heure, tawakkal ala Allah, sans précaution, et la négligence, ce serait de prendre maximum de précautions et al-i'timad wa ala nafs, et tu fais confiance en tes compétences, en ta personne, d'accord? Tu te dis que voilà, j'ai mis une caméra, j'ai mis l'alarme, j'ai fait tout ça, c'est bon, hein, c'est protégé. Non, ça, tu as mis des asbas, mais peut-être même tu en as mis trop. Et tu as oublié de placer ta confiance en Allah. C'est donc le juste milieu. Et ce qui fait de nous, on va dire, des citoyens du monde. Nous ne sommes pas des personnes à part qui vivent dans un monde, on va dire, tellement spirituel que on ne se reconnaît pas à travers la façon d'agir des gens. Non, on agit exactement comme eux. J'agis exactement comme mon voisin qui n'a peut-être pas la ilaha illallah dans son cœur et qui ferme sa voiture, qui, si elle a, il y a l'alarme et ainsi de suite, qui fait tout ce qu'il faut. Mais lui ne dira pas Bismillah tawakkaltu ala Allah. Alors que moi je fais comme lui et avec ça je place ma confiance en Allah. Maintenant vous posez la question, oui mais s'il arrive quelque chose, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. C'est ce qu'Allah a prédestiné et c'est ce qu'Allah a décrété. Et ce qu'il a décrété, c'est ce qui se produit. Et si il y a un vol ou quelqu'un qui a dégradé le véhicule ou peu importe exemple, c'est la volonté d'Allah. Mais moi, de mon côté, à partir du moment où j'ai placé ma confiance en lui et j'ai fait ce que j'avais à faire, les asbab, khalas, intahayna. Le reste, c'est taqdirullah, c'est ce qu'Allah a prédestiné. C'était une très grande parenthèse que je referme. Donc, Abu Huraira, radiallahu anhu, il était donc en charge de la protection des récoltes. On parle de récoltes de fruits et de légumes qui devaient être redistribués. Et donc, un soir, il voit une personne qui s'approche et qui vole un peu de cette nourriture. Abu Huraira interpelle et dit que je vais prévenir le prophète alayhi salatu wassalam de ce que tu as fait. Il a demandé ana muhtaj inni muhtaj wa alayya iyal. Il dit que non, par pitié, ne me dénonce pas, je suis quelqu'un de pauvre, je suis dans la nécessité, j'ai une famille à nourrir et je suis dans le besoin. Abu Huraira fa khallaytu anhu. Il dit que je l'ai laissé partir. Et là, on voit également la rahma qu'il y avait dans le cœur des sahabas, cette bonté, cette grandeur d'âme et cet amour qu'il y avait pour le prochain. C'était une situation qui l'avait touché, qui l'avait affecté. Et donc, il a pris pitié de cette personne et il l'a laissé partir. Et là, on va voir le mu'ajiza, le miracle prophétique. Asbahtu. Faqala alayhi salatu wassalam ya Abu Huraira. Le lendemain, Brassam le voit dit Abu Huraira. Alors, la personne qui est venue te voir hier soir, qu'est-ce qu'elle a fait? Abu Huraira n'avait informé personne de cet événement. Le prophète l'a su, Allah l'a permis de savoir. Il dit au prophète d'Allah, cette personne m'a, elle s'est plaint, elle s'est excusée, elle a dit qu'il est, il est dans le besoin, très pauvre, il a une famille à nourrir, et donc je l'ai laissé partir. Le prophète a dit que, sache qu'il t'a menti, et wasayaoudou, il reviendra. Il t'a promis que c'est la dernière fois, il va revenir. Et Abu Huraira prend acte, et il savait. Fa'ariftu annahu sayaoud. Et là, on voit également que les sahaba avaient une confiance totale sur le prophète alayhi salat. On dit que quand le prophète me l'a dit, je savais pertinemment que cette personne allait revenir. Quand le prophète alayhi salat m'a dit, de l'autre côté, il y a un homme qui a promis, c'est la dernière fois, et pitié de moi, ne me dénonce pas. Mais si le prophète l'a dit, c'est ce qui va se produire. Effectivement, le soir, la même personne revient. Abu Huraira l'interpelle et là, la personne va lui dire la même chose. Et le cœur d'Abu Huraira était tellement rempli d'empathie et de compassion et d'amour pour son prochain. Je pense que ces ingrédients-là nous manquent énormément dans notre société. Je referme cette parenthèse. Et donc, Abu Huraira a eu tellement pitié de cette personne qu'il a laissé, il a laissé partir. Il a promis, dernière fois, je ne reviendrai plus. L'endroit, le prophète me dit, alors, ton invité d'hier soir, qu'a-t-il fait? Il dit, oh, prophète d'Allah, il m'a dit la même chose et j'ai eu pitié, je l'ai laissé partir. Le prophète, alayhi salat, m'a dit que c'est un menteur. Il va revenir, c'est-à-dire une troisième fois. Et la troisième fois, c'est la même scène, le même scénario, la même chose. Et là, cette personne, alors, je retrouve le hadith maintenant. Il dit que je l'ai attrapé la troisième fois. Fakultu. Cette fois-ci, je vais prévenir le prophète alayhi salat wa salam de tes agissements parce que c'est la troisième fois. Troisième fois que tu viens voler et c'est la troisième fois que tu me fais une promesse de ne plus recommencer et tu es revenu. Et là, cette personne dit da'ni. Wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Dit laisse-moi, je vais t'enseigner des paroles par lesquelles Allah Azza wa Jal te protégera. Par lesquelles tes paroles qui te seront profitables et par lesquelles tu seras protégé. Quelles sont ces paroles? Et là, il lui a dit que إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكْ فَقْرَ آيَةَ الْكُرْسِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ. Lorsque tu vas te coucher le soir, lis آيَةُ الْكُرْسِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ. Il a lu jusqu'à la fin du verset. فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظُ. Sache que si tu le lis, il y aura toujours une protection. Allah t'enverra quelqu'un, on va dire un ange, pour te protéger. Il y aura une protection qui viendra d'Allah. Et aucun shaytan ne t'approchera hatta tusbiha, jusqu'à ce que tu te réveilles. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, ce verset, Ayatul Kursi, sera le protecteur et les shayatins ne t'approcheront pas. Fakhallaytu sabila. Abu Huraira était très satisfait de cet enseignement et il l'a laissé partir. Le lendemain, le prophète alayhi salat wa salam lui pose pour la troisième fois la même question concernant la personne qui était venue le voir la veille, hier soir. Et dit au prophète d'Allah, il raconte, il dit que il m'enseignait telle chose, il m'a dit si je fais ça, j'aurai telle protection. Je ne répète pas les mêmes termes qu'on a cités. Et le prophète alayhi salat wa salam dit sache qu'il a dit vrai alors que c'est un menteur. Sais-tu où Abu Huraira qui s'est adressé à toi durant ces trois nuits? Il dit, je ne sais pas, au prophète de Allah, sache que c'était Shaytan en personne. C'était Shaytan en personne qui était venu et c'est lui qui t'a enseigné les versets par lesquels le croyant trouve protection contre lui et contre son armée. Et donc le prophète alayhi salat wa salam a approuvé ce que Shaytan a dit à Abu Huraira, que Ayatul Kursi c'est un verset qui doit être lu tous les soirs avant de dormir pour obtenir la protection contre les shayatins. Et donc c'est un enseignement important, c'est un enseignement très important. Chaque croyant se doit, avant de se coucher, de lire Ayatul Kursi avec bien sûr les Mu'awwidhat, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et également les derniers versets de Al-Baqara, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ila akhir as-sura. Hada. Également, les savants rappellent à travers donc d'autres hadiths qu'il est sunnah de lire Ayatul Kursi après chaque salat maktouba, après chaque salat obligatoire. Ça fait partie de l'enseignement prophétique que de lire Ayatul Kursi après la salah. Je parle des salahs qui sont obligatoires. Immédiatement après la salah, cinq fois donc par jour, je lis Ayatul Kursi et je lis l'ikhlas, al-falaq et an-nas de la même façon. Sauf que pour la salat de Maghrib, la salat de Fajr et de Maghrib, je lis trois fois al-ikhlas, al-falaq et an-nas. Et pour les autres salats, c'est-à-dire le Dhuhr, al-Asr et al-Isha, je lis Ayatul Kursi et une seule fois les trois sourates protectrices. À mon humble avis, nous vivons une époque où, Allah musta'an, les gens ont tellement, Allah musta'an, les gens sont tellement animés. Hein, j'essaie de trouver les termes, on va dire, les plus nuancés. Les gens sont, beaucoup de personnes sont malheureusement animées de mauvaises intentions, ce qui résulte de leur faiblesse de iman, de leur manque de confiance en Allah Azza wa Jal, et sur le fait qu'ils oublient que c'est Allah qui est Ar-Razzaq, c'est lui qui donne la subsistance. Et donc il y a beaucoup de jalousie. Et vous savez, la jalousie, c'est quelque chose qui a des conséquences. Déjà, la jalousie, ça peut provoquer le mauvais œil. Et le mauvais œil, on sait, c'est quelque chose de réel et qui peut atteindre une personne, qui peut même provoquer la mort. Hein. Le hadith le prouve. Et la personne qui a cette maladie, parce que la jalousie est une maladie qui détruit le jaloux en premier, car le prophète alayhi salat wa salam a dit que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu brûle le bois sec. Donc la personne qui a cette maladie, il se détruit lui-même, il détruit son stock, on va dire, de hasana, de bonnes actions, parce que la jalousie, c'est quelque chose qui va à l'encontre de iman billah et iman bil qada'i wal qadr, la foi sur le destin. Et au-delà de ça, la personne qui est jalouse se détruit psychologiquement également, parce que autour de lui, il n'arrêtera pas de voir des personnes qui ont réussi plus que lui, qui ont plus de bienfaits que lui, et donc ça va être une torture pour cette personne de façon permanente, et c'est une souffrance de voir sans arrêt des personnes qui ont des bienfaits qu'il n'a pas. Et comme il n'arrive pas à faire le lien entre ce que les gens ont et le fait que ce soit Allah qui leur a accordé ses bienfaits, c'est là que la jalousie émerge, ressort de son cœur, il sera envieux, il va porter un mauvais œil sur ses bienfaits, et il risque d'être une personne extrêmement préjudiciable pour la société et dangereuse pour certaines personnes. Parce que certaines personnes ont un niveau de jalousie, il y a des gens qui sont connus depuis l'époque du prophète alayhi salat wa salam pour avoir un mauvais œil, mais franchement percutant. Et je pense qu'on connaît, on a peut-être des cas autour de nous. Si c'est parmi vos amis, ben, prenez un peu de distance quand même, parce que c'est très embêtant. Et au-delà de ça, la personne qui a cette jalousie, donc le premier palier, ça va être le mauvais œil. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à la sorcellerie. Il arrête d'aller, qu'Allah nous protège. Nous vivons dans une époque donc très complexe, avec des gens qui, à cause de la faiblesse de foi, peuvent faire ou avoir l'intention de faire ou de causer du tort aux gens. Et il est inimaginable et impensable qu'à notre époque, un croyant ne lise pas au moins 6 fois Ayatul Kursi chaque jour. C'est-à-dire 5 fois après le salawat et une fois le soir avant de se coucher, avant de dormir. Donc essayons de prendre cette bonne habitude et de l'enseigner à nos proches. Permettez-moi, juste on va amorcer les premiers versets de Ayatul Kursi et puis éventuellement on complétera demain. A'udhu min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La traduction de ces versets, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. J'apprécie cette traduction parce que le Mutarjim, l'auteur, n'a pas traduit Al-Qayyum parce qu'on ne peut pas, traduire, on va dire fidèlement, Al-Qayyum. C'est vraiment quelque chose qui est propre à Allah Azza wa Jal. Allahu la ilaha illahu. Allah, point de divinité à part lui, c'est le sens de la ilaha illallah, ay la ma'bouda bihaqqin illallah. Rien, personne n'est digne d'être adoré à part Allah Azza wa Jal. C'est celui qui est al-Khaliq, al-Raziq, al-Malik, le créateur. Laysa qablahu shay, il n'y a rien avant lui, c'est le créateur. Et celui qui a créé, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et c'est lui qui t'accorde la vie, la santé, les bienfaits, la subsistance. Et c'est lui qui reprend ton âme. Et c'est auprès de lui que tu retournes. Et c'est lui qui te jugera et qui décidera de ton avenir dans le paradis ou dans l'enfer. Et Allahu la ilaha illahu, après si on rentre dans beaucoup d'explications de ce verset, illahu, c'est le sens de illallah, c'est-à-dire kullu ma siwa Allah fahuwa batil, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est faux. Et ça, c'est une base de notre foi iman billah, c'est reconnaître que Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Alors, bien sûr, nous sommes, mashallah, nous avons une entente parfaite avec les gens de toute confession. D'accord, mais le fait que des personnes aient d'autres confessions et que nous les côtoyons avec le meilleur des comportements, avec le respect qui était celui du prophète alayhi salatu wassalam pour les Yahoud et les Nassara, le prophète avait accueilli des délégations de Najran, de Palestine, et il leur avait donné la possibilité de rester dans sa masjid. Et dans certaines versions, c'était lors de la fête des rameaux. Le prophète alayhi salatu wassalam avait des relations très correctes avec les Yahoud, les tribus juives à Madina, à Munawwara. Il rendait visite à un de ses voisins de confession juive qui était malade, et ainsi de suite. Il avait des transactions commerciales avec eux. Il avait laissé son armure en gage. C'est un commerçant de confession juive. C'est-à-dire que le respect mutuel était présent, et c'est l'héritage prophétique. C'est l'enseignement de la prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque nous parlons du bien vivre ensemble et tout ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. C'était le message prophétique, et c'était la façon de vivre à Al-Madina Al-Munawwara. La première chose que le prophète avait fait, c'était signer un pacte de non-agression avec les tribus juives. Il avait reçu les délégations chrétiennes, et ainsi de suite. Voilà donc le modèle prophétique. Pourquoi est-ce qu'il est important de le comprendre? C'est parce que Allah Rabbul Izzah nous a donné un message, nous a donné le haqq, la vérité. Et il est de notre devoir, tablir ul haqq, de propager et de donner de cette lumière aux personnes qui, eux, ne l'ont pas reçue. C'est ce qui fait de nous khayra umma. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et Allah nous demande ud'u ila sabili rabbik bil hikma wal maw'izati al hasana, et plein d'autres versets qui mentionnent l'importance d'inviter vers Allah. Donc, lorsque je vois qu'une personne n'a pas les mêmes convictions, les mêmes croyances, je reprends ce que j'ai dit, mon comportement avec lui doit être exemplaire, mais au-delà de ça, je dois être capable de l'exposer, la lumière de l'islam. Je dois être capable de montrer le nour qu'il y a dans les versets du Coran, parce que cette lumière-là, elle éclaire ma vie. Et si j'aime mon voisin, mon prochain qui est d'une autre confession, j'aimerais que lui aussi profite de cette lumière. Et si j'ai un collègue au travail avec qui j'ai une entente qui est parfaite, il n'est pas cohérent que ce soit mon meilleur ami, que je vais au restaurant avec lui, on prend, j'allais dire l'apéro, non là, faut pas exagérer, et qu'on partage nos déjeuners et ainsi de suite ensemble, quoique avec la distanciation en ce moment, il paraît que c'est interdit, mais il n'est pas possible que je côtoie des gens et que je sais pertinemment que cette personne ne sera peut-être pas avec moi dans le Jannah. Et donc, je dois lui montrer, as-sabil ila Jannah, inviter vers le dîn d'Allah, vers le tawhid, vers le Qur'an, vers la beauté du Qur'an, la beauté de la parole du prophète alayhi salat wa salam. Donc, dans le sens de Allahu la ilaha illahu, c'est comme la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqn illallah, le seul qui mérite d'être adoré, c'est notre Seigneur, notre Rabb, Azza wa Jal. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ben, ne mérite pas cette adoration. Et ne sont que des créatures qui font partie de la création d'Allah, Azza wa Jal. Ainsi donc, le mu'min, c'est pertinemment que le seul chemin qui mène vers le Jannah, le seul chemin qui mène vers le contentement d'Allah, la satisfaction d'Allah et le Jannah, c'est l'islam. Inna dina indallah l'islam. Et c'est à nous d'être les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion. Alors bien sûr, il y a des shurouts, des conditions. La première condition, c'est d'avoir le comportement du croyant, d'avoir le comportement de notre prophète alayhi salat wa salam. Ou alors au mieux, si nous voulons propager le message, il faut que de nous-mêmes se dégage une spiritualité et un respect et un comportement qui est à la limite même de la perfection. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, le vivant celui qui subsiste par lui-même. As-Sa'di rahimahullah explique al-hayy. Alors tout d'abord al-hayy, al-hayy fi nafsihi alladhi la yamutu abadan. Allah Rabbul Izza a cette, enfin les termes sont très complexes parce que ce sont, on appelle ça des alfad mushtarika, des termes qui sont propres au langage humain et qu'Allah a utilisé ces termes pour le décrire lui Azza wa Jal, afin que le message nous interpelle. C'est-à-dire des termes que nous comprenons, parce qu'autour de nous, nous voyons des, et nous sommes nous-mêmes vivants, alhamdoulilah, nous voyons des créatures qui sont vivantes. Et nous savons, nous connaissons la définition de la vie. Et nous connaissons également les limites de la vie. La limite de la vie, c'est al-maut, c'est la mort, bien sûr. Alors que al-hayy, celui qui est vivant, c'est celui qui est éternel. Et le seul qui est éternel, Allah qui a toujours existé et qui existera toujours, c'est Al-Kamal, Lillahi Azza wa Jal fil Hayat. C'est cette, et c'est cette vie qui est éternelle et parfaite et qui est spécifique à notre Seigneur, à notre Khaliq. Et là, je vous ramène vers le premier dars qu'on avait fait concernant les qualités des croyants. Huda al-Muttaqin, Alladhina yu'minuna bil ghaib. On a dit que croire en l'invisible, c'est à un moment donné quand on va dire, ta réflexion et ta capacité à raisonner, allez, j'allais dire, ton raisonnement cartésien ne peut pas te permettre ou ne te permet pas de comprendre certaines choses de la religion, tu te dis stop, parce que j'ai une réflexion qui est à un niveau d'humain. Et il est normal que je ne peux pas comprendre tout ce qui vient de notre Créateur. Ainsi donc, quand on dit qu'Allah a toujours existé, il existera toujours, il est normal que dans mon raisonnement humain, qui est souvent basé sur mes sens et ce que je comprends, ce qu'on appelle en philosophie sur l'expérience, ne peut intégrer le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait toujours existé. Parce que dans les lois physiques, chaque chose a un début et certainement une fin. Mais ce qui est clair, c'est que chaque chose a un début. D'accord ? Alors que quand on parle d'Allah Azza wa Jalla, al-Hayy, c'est celui qui est vivant, mais qui est éternel. C'est l'éternité dans le futur, mais également dans le passé. Allah qui a toujours existé. Comment est-ce possible qu'il a toujours existé ? Kama yaliqu bihi Azza wa Jalla. Aamantu billah wa saddaqtu bi Rabbi. Je crois en mon Seigneur et j'ai une conviction inébranlable et je suis prêt à donner ma vie pour ce iman en Allah, celui qui est éternel et celui qui a toujours existé et qui existera toujours. Et c'est pour lui que je vis et c'est vers lui que j'oriente mon cœur et c'est pour lui que je me prosterne, c'est pour lui que j'accomplis de bonnes actions, c'est pour lui que je m'abstiens de tout ce qu'il a rendu haram, même si certaines actions qui sont haram procurent à l'être humain un certain plaisir éphémère et illusoire, mais je me soumets au décret divin. C'est pour lui que je jeûne, c'est pour lui que je ne bois pas, je ne mange pas durant la journée. C'est tout ça qui doit animer ma foi de croyant, qui donne un sens à mon existence. J'existe parce que Allah l'a voulu. J'existe parce qu'Allah attend de moi que je l'adore jusqu'à mon dernier souffle. Et le fait qu'Allah m'ait guidé dans le droit chemin, c'est le plus grand bienfait. Et je lui demande de me garder dans le droit chemin jusqu'à la mort. Allahu la ilaha illahu, lui seul mérite l'adoration et nous implore notre Seigneur de nous accepter pour faire son ibada jusqu'à la mort. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que, comme les mufassirin ont traduit et ont commenté le verset, jusqu'à ce que la mort te parvienne. Et c'est le souhait de chaque croyant qu'Allah nous accepte, donne tawfiq et guide nos cœurs et notre corps pour faire son ibadah jusqu'à notre dernier souffle. Car celui qui a adoré Allah jusqu'à la mort, celui qui a vu sa barbe blanchir ou ses cheveux blanchir, fait un ibadatillah dans l'adoration d'Allah, c'est vraiment une personne qui a obtenu les plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah te permet durant toute ta vie. Et le summum de ce bienfait, c'est quand Allah t'a permis de faire son ibadah depuis le moment où tu es baligh, depuis ta jeunesse. Car le prophète alayhi salat wa salam disait que parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, yawma la dhilla illa dhillu shabun nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah. Quand tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, l'adolescence où il y a tout ce qui entraîne les hormones avec tous les shahawat, les pulsions et l'envie de s'affirmer, l'envie d'intégrer un groupe, l'envie de se dissocier de l'éducation des parents, l'envie de se démarquer, l'envie de s'affirmer, comme je l'ai déjà dit, l'envie de prendre des décisions et ainsi de suite, de repousser les frontières, les limites, et l'envie de, comme on dit, de croquer la vie à pleines dents, de jouir et de bénéficier et de profiter, enjoy, comme on dit en anglais, de profiter de la vie, c'est à cet instant que tu réalises que ton Seigneur te voit, t'entend, il sait ce qu'il y a dans ton cœur et il attend de toi l'obéissance, la taqwa. La taqwa, si elle a pénétré ton cœur depuis ton plus jeune âge, depuis que tu es, mashallah, depuis que tu es mukallaf, à l'âge de 13, 14, 15 ans, et que tu restes sur ce mode de pensée, muttaqi, la recherche de l'agrément d'Allah et l'éloignement de tout ce qui peut entraîner la colère d'Allah, sache que Allah t'a aimé. Allah t'a honoré et que tu as un rendez-vous sous l'ombre de son trône jour de Qiyam. Le plus grand bienfait, c'est d'être dans le droit chemin depuis sa jeunesse et de mourir. Allahumma ja'alna minhum. Inch'Allah, on continuera le tafsir de Ayatul Kursi, qui est on dit que c'est un verset magnifique, on ne peut pas se permettre de le commenter aussi rapidement, ce serait irrespectueux. Inch'Allah, demain on va continuer. On a pu voir donc les vertus d'Ayatul Kursi et on a effleuré un peu le sens de Allahu la ilaha illahu, l'importance du tawhid et le fait que nous devons souhaiter, vraiment ça doit être le souhait le plus profond qui émane de notre cœur, qu'Allah nous garde dans son ibadah jusqu'à la mort. Ce n'est pas pour rien, ikhwan et akhawati fillah, que le premier dua que nous formulons dans notre salat est le dua que nous allons peut-être formuler le plus souvent dans notre salat, c'est ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, et c'est ce que nous demandons à Allah Rabbul Izza dans cette nuit bénie de Ramadan, qu'Allah nous garde de le droit chemin, de son obéissance, nous accorde l'istiqama et toutes les qualités de foi intérieure et le tawfiq pour accomplir les bonnes actions et de mourir alors qu'il est satisfait de nous. Ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.